Bienvenue dans le Buzz Télé de TV Magazine. Nous sommes partis pour 30 minutes de direct, d'interaction, bien sûr, avec vous, avec vos questions, mais également avec notre invité, un écrivain, romancier amoureux, on va dire, des belles lettres, qui a peut-être failli se perdre au début de son parcours dans les chiffres. Après avoir amorcé en effet quelques études scientifiques, il se rend compte que Sacha Guitry ou Charles Péguy le transcendent davantage qu'un peut-être Cédric Villani aujourd'hui. Il reçoit le prix Goncourt pour son premier roman, Jubilation vers le ciel, c'est son titre, en 1996. Il en braie 17 ans plus tard avec le prix Renaudot, cette fois pour Naissance. C'est un ancien ténor aussi à la télévision, On n'est pas couché à l'époque sur France 2. S'il vient nous voir sur ce plateau, c'est également pour parler de télévision. Dans une émission, on va dire, de débat qui monte en puissance au fil des saisons. Yann Moix, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans le Buzz TZ. Balance ton poste, c'est le nom du magazine hebdomadaire en direct, présenté chaque jeudi par Cyril Hanouna à 21h15 sur C8. Vous y intervenez comme éditorialiste aux côtés d'autres éditorialistes, notamment, on peut citer Karim Zeribi ou Raquel Garrido. Les sujets abordés sont très variés. La vaccination, je prends quelques thèmes. Les repas sans viande dans les cantines, l'insécurité, le racisme ou encore le droit de la presse. Est-ce que c'est facile d'avoir un avis sur tous ces sujets tout le temps?
Non, c'est d'ailleurs pour ça que j'adore. Ça me rappelle l'oral de Sciences Po. Vous savez, vous êtes obligé d'avoir un avis sur tout alors que vous n'avez rien révisé. Vous êtes au courant de rien. Mais alors, du coup, ça vous force à savoir ce que vous pensez vous-même. C'est très bien. C'est un exercice intellectuel, en fait. C'est comme au tennis, on ne sait pas où l'adversaire va envoyer la balle. Donc c'est une improvisation perpétuelle. Donc dans ces cas-là, il y a deux manières de faire. Soit on ratiocine et on balance toujours le même discours, toutes choses égales par ailleurs, on récite sans cesse la même chose et on l'applique à tout. Ou alors on essaye de s'étonner soi-même en découvrant ce qu'on pensait sur un sujet, on ne pensait pas qu'on allait penser ça.
Et justement,
donc on s'ennuie pas en faisant ça.
Par rapport aux arguments que de vos camarades, entre guillemets, sur le plateau, ça vous arrive de changer d'avis justement en confrontant vos opinions?
Je change d'avis sur un sujet donné une dizaine de fois par jour.
D'accord.
C'est ça que j'appelle, sans prétention, pour moi la pensée c'est essayer des choses, c'est-à-dire ça doit se contredire, ça doit se raturer, ça doit s'affiner, ça doit se tromper, ça doit errer. Et on ne doit jamais arriver à un point de stabilité totale, ça c'est la mort. Donc en fait, pour moi, la pensée, c'est un exercice qui doit perpétuellement être une remise en question. Soit parce que vous avez une nouvelle information, soit parce que vous dites, là, j'avais oublié de nuancer telle ou telle chose. Et l'art de se tromper, l'art d'errer, est pour moi un très bon exercice. Donc ça ne me dérange pas de changer d'avis. C'est signe de bonne santé intellectuelle, sinon mentale.
C'est un ping-pong permanent. Donc ce n'est pas un peu épuisant, justement, de remettre en permanence...
Oui, mais moi, j'adore la télévision et j'adore la télévision en direct. Parce qu'en direct, on peut toujours montrer aux autres à quel point on est faillible. Et il y a ce côté finalement très agréable, où on montre en fait qu'on n'est pas supérieurement intellectuel aux autres, on est autrement intellectuel. C'est-à-dire que ce que j'aime sur le plateau de Balance son poste, je ne dirais pas un tel est plus intelligent qu'un tel, mais je dirais que c'est des différences intellectuelles horizontales et non pas verticales. On dit, tiens, Rokhaya Diallo, je ne la pense pas moins intelligente que moi, mais je n'aurais jamais pensé qu'on puisse penser ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien cette différence de point de vue de gens dont je ne me dis pas ils sont plus ou moins intelligents. Je dis incroyable qu'une intelligence puisse penser ça sur tel sujet.
Nous sommes en direct, je rappelle, avec Figaro Live, avec Yann Moix, notre invité du jour, diffusé donc sur le figaro.fr, également la page YouTube de TV Magazine. Quel regard vous portez sur son franc-parler, sur sa carrière, sur ce qu'il écrit? Est-ce que ces livres, d'ailleurs, figurent en bonne place dans votre bibliothèque? En attendant vos réactions, je vous propose de redécouvrir les news du jour avec Damien Canivez. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, bonjour Yann.
Bonjour Damien.
Tradition, Yann, de cette tranche d'information, c'est les news médias du jour, avec premier chiffre, les chiffres d'audience de la veille.
Et France 2, qui est arrivée en tête des audiences hier avec la suite des Invisibles, deux épisodes inédits avec 3,9 millions de fidèles, ce qui représente 18,3% du public, ce qui est en légère baisse par rapport à la semaine dernière. TF1 enfile la médaille d'argent avec Good Doctor, vous savez, cette fameuse fiction médicale porté par Freddy Highmore, 3,2 millions de téléspectateurs, 15% de part d'audience. En troisième position, on retrouve M6 avec l'inénarrable Philippe Etchebest qui proposait un nouveau numéro de Cauchemar en cuisine en compagnie de 2,2 millions de gourmands. Et enfin, on termine avec France 3 qui cale au pied du podium avec le monument préféré des Français. Cette fois-ci, Stéphane Bern a rassemblé un peu moins de 2 millions de curieux, soit moins de 10% de part d'audience.
Alors, Stéphane Bern, ambassadeur du patrimoine français, c'est notre héros des richesses nationales, on dirait aujourd'hui à la télévision.
Stéphane Bern fait ce qu'il peut.
La mission bon. Patrimoine, en ce moment, d'ailleurs.
Oui, oui. Moi, je suis partagé sur cette idée parce que je crois que j'ai une façon de voir qui ne va pas plaire au Figaro, si vous voulez. Je pense que le patrimoine doit disparaître. Je ne veux pas dire mettre à la poubelle les chefs-d'œuvre.
On ne va pas tout raser.
Non, mais je pense qu'il faut opérer des saignées dans la civilisation. Il faut savoir aussi s'alléger. Au bout d'un moment, les vieilles pierres, il faut savoir aussi leur dire adieu. Je ne dis pas qu'il faut brûler les chefs-d'œuvre du Louvre, mais je dis que toutes les vieilles pierres ne sont pas des chefs-d'œuvre. Toutes les vieilles pierres ne sont pas indispensables. Ça ne sert à rien d'empiler à l'infini un certain nombre de vestiges si ces vestiges-là n'ont plus rien à nous dire. Donc, j'aime bien la notion de transmission. Je me méfie énormément de la notion d'héritage et je ne suis pas sûr d'adorer la notion de patrimoine. Je pense qu'on a le droit de s'alléger et de passer à autre chose. C'est une vision très personnelle. Je me souviens d'un entretien que j'ai vu de 1972 sur le site de l'INA où Pierre Boulez, excusez du peu, dit exactement la même chose. Donc Boulez et moi pensons qu'au bout d'un moment, il faut opérer des saignées, c'est très sain.
Et passer à autre chose, ouais. On poursuit ces infomédias avec Fabrice Divisio, hein, qui a annoncé qu'il ne reviendrait plus dans TPMP.
Effectivement, depuis la saison dernière, l'avocat faisait partie des intervenants réguliers du talk show animé chaque jour par Cyril Hanouna sur C8. Et sur son compte Twitter, il a annoncé une nouvelle fois qu'il avait écrit à l'animateur pour lui signifier qu'il ne se rendrait plus dans l'émission. Alors Fabrice Divisio se distinguait notamment pour son opposition farouche au pass sanitaire. Hein, le précieux QR code étant même nécessaire pour accéder au plateau de Touche pas à mon poste, il participait à l'émission depuis un garde-manger. Debout, parce qu'un garde-manger, il aurait un peu froid. C'était un manche debout, effectivement, sur le trottoir. Il était à l'extérieur du plateau parce qu'il refusait de se faire vacciner et donc il n'avait pas ce fameux pass sanitaire pour participer à l'émission en compagnie des autres chroniqueurs sur le plateau.
Fabrice Divisio ou encore Jean Messia, c'est des figures, on va dire, peut-être un peu radicales. C'est pas jouer un peu avec le feu que de les faire intervenir
si vous voulez. C'est ça qui est extraordinaire avec la télévision, c'est que ce sont des personnages. Ce sont devenus des caricatures, mais très intéressantes. Il n'y a que la télé qui peut accoucher de personnages comme ça. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de les scénariser, c'est pas la peine d'inventer les dialogues. On les aime d'une certaine manière parce qu'ils arrivent à se caricaturer au carré, au cube. Et finalement, ce sont comme des personnages de dessins animés. C'est ça que j'aime bien. Vous vous souvenez, comme Satanas et Diabolo, là, c'est vieux. Hein. Les fous du volant,
je connais. Ça ne me parle plus, là.
Non, mais, oui, non, je sais, mais vous, ça vous parle peut-être. Mais pour moi, c'est des personnages de cartoon.
Et du coup, c'est du divertissement, alors.
Ah bah oui, c'est du divertissement. Mais si vous voulez, il y a eu une phase où on faisait un peu de divertissement dans les émissions politiques. On est arrivé maintenant à une phase où on fait un peu de politique dans les émissions de divertissement. Mais comme les hommes politiques eux-mêmes se cartoonisent, finalement, on arrive à quelque chose de très cohérent. Et peut-être qu'on voit une chose qu'on ne voyait pas avant, quand les gens se prenaient au sérieux, c'est que les hommes politiques ne sont peut-être pas si profonds que ça et que les émissions du divertissement leur vont peut-être mieux que les émissions intellectuelles. C'est une hypothèse. Ça ne marche peut-être pas pour Jean-Pierre Chevènement, ce que je dis. Hein. Ouais. Mais ça marche peut-être pour certains dont je ne citerai pas les noms. Parce que je ne veux pas déclencher de polémique, j'ai envie de me reposer un peu là, dans les mois qui viennent.
C'est une bonne après-midi.
Il y a un direct à préparer pour ce soir. On termine ces news avec le retour de Cash Investigation.
Ah oui, alors c'est sans doute le numéro le plus mystérieux de ce magazine qui sera diffusé le jeudi 7 octobre prochain sur France 2. Pourquoi ? Car le communiqué envoyé par la chaîne de service public indique que la journaliste Élise Lucet va s'intéresser à l'un des Français les plus célèbres, les plus influents, un grand Manitou de la finance, adepte des paradis fiscaux qui gagne des millions d'euros en conseiller des personnages sulfureux ou même des dictateurs. Alors qui est-ce ? C'est la question qu'on se pose tous. Et bien pour le moment, France 2 n'a pas révélé l'identité de cette personne.
Vous avez une idée, Yann Moix ?
Alain Minc.
Alain Minc, vous pensez ?
Plaisante.
Hop, ça fait une polémique.
Plus sérieusement, Élise Lucet, elle a un style, on va dire, singulier. Hein,
ou Gérard Depardieu.
Hein, oui, c'est possible aussi.
qui conseille les patrons du CAC 40.
Peut-être. Oui, mais enfin, à sa façon.
Ah, peut-être à sa façon.
Mais en Ukraine ou en...
Exactement, c'est vrai.
Élise Lucet, plus sérieusement, vous appréciez le travail de cette journaliste qui a été extrêmement pushy hein, dans des entretiens plusieurs fois.
Moi, je n'ai pas la télévision, mais enfin, quand on entend le mot Élise Lucet en général, on a une impression de qualité de travail. C'est quelqu'un, je n'ai pas joué, les tueries ferraires de quiconque, mais je crois que c'est une grande et une vraie journaliste. Même si je ne suis pas son travail depuis quelques années, c'est un gage de qualité. Enfin, je ne sais pas si je dis bêtise, mais pour moi, c'est un gage d'honnêteté intellectuelle et de qualité.
Et de reportage.
Et quelqu'un qui, manifestement, ne se laisse pas marcher dessus. Et c'est quelqu'un, quand je regardais la télévision, au début des années 90, la dernière fois que j'ai allumé un poste de télé, je me souviens l'avoir vu à plusieurs occasions. Et je trouvais qu'elle faisait bien son travail.
Vous regardez plus, vous n'avez plus la télé. C'est quoi, c'est... Il y a eu un accident.
Oui, la télé est tombée en panne. Non, non, en 97. Et donc ensuite, j'ai pu regarder du tout. J'ai lu ou écouté la musique. C'est pas du tout de la cuistrerie du snobisme, mais j'ai découvert autre chose. Le site de l'INA. Ah oui. Qui me permet de rattraper toutes les émissions des années 60 parce que j'étais pas né, 70 parce que j'ai pas regardé la télé, et 80 parce que j'avais mes devoirs à faire. Donc en gros, je rattrape, j'ai presque fini, toutes les émissions des années 70-80 qu'on peut consulter maintenant en ligne.
C'était la séquence archive avec Yann Moix pour se rapprocher. Merci Damien pour ces news media et on retrouve tout de suite Yann Moix pour l'interview du Buzz Télé. C'est depuis février 2020 que vous participez donc en tant qu'éditorialiste à Balance ton poste, hein, l'émission présentée par Cyril Hanouna chaque jeudi en première partie de soirée sur C8. La rencontre avec Cyril Hanouna s'est passée comment
Alors d'abord, je l'avais croisé à Europe 1, on l'avait reçu une fois. Je ne le connaissais pas du tout.
Quand il faisait les après-midi
Non, avant.
Avant
C'était au moment où justement Ruquier lui passait la main. Et je dois dire que ce type m'a paru extrêmement intelligent, très vif, très fin, et j'ai senti vraiment une vivacité qui m'avait beaucoup plu. Ensuite, on s'est perdu de vue, puisque j'ai choisi l'équipe Ruquier, d'ailleurs il ne m'avait pas proposé de le rejoindre. Et puis, j'ai eu une polémique il y a 2 ans, qui est assez depuis longtemps, mais enfin qui était désagréable à vivre, et un jour je reçois un coup de fil de Cyril, il me dit « Tu sais, on est au 21e siècle, les polémiques, c'est violent ». Ensuite, ça se tasse, donc la porte est grande ouverte, et quand tu seras revenu de ton exil, tu viendras faire mon émission. Je pensais que c'était des paroles en l'air, parce que dans le milieu de la télé, etc. Et sans qu'il me rappelle plus jamais, un jour, un de ses assistants m'a dit « Ben, vous êtes toujours d'accord pour demain ?» Je dis « Qu'est-ce qui se passe demain ?» Vous faites votre première chez Cyril. Donc Cyril est un homme de parole. Bon, il fait beaucoup de choses en même temps. Je ne vais pas vous dire qu'il a zéro défaut, mais il a la qualité d'être gentil. Pour moi, c'est une vraie qualité. Intelligent, humain et fou. Et ce n'est pas la moindre de ses qualités, dans ma bouche, c'est un compliment. Merci. J'adore Cyril. Et je crois, parce qu'on est au 21e siècle, et ça va peut-être vous surprendre, souvent on taxe de dinguerie quand je dis ça, mais pour moi, c'est le successeur de Michel Pollack. Tout a évolué, hein. On peut regretter qu'aujourd'hui, les émissions soient peut-être trop divertissantes, mais on peut aussi regretter que quand on voit Droit de réponse sur le site de l'INA, c'était beaucoup plus ennuyeux que ce qu'on pense rétroactivement. Et donc, en fait, pour moi, c'est son successeur, parce que c'est en direct, et que mine de rien, il y a des sujets très sérieux qui sont abordés, et que surtout, le public est là. Voilà. Donc, j'aime beaucoup Cyril, et je le critiquerai jamais pour des raisons humaines, et je ne le critique pas non plus pour des raisons professionnelles, parce que je crois que c'est une bête de télé. C'est un génie de la télé en direct. Je veux dire, il y a des génies dans tous les styles et dans tous les genres. C'est inimaginable de tenir aussi longtemps à l'antenne un public quand même exigeant et qui zappe, et de mettre en haleine des gens. C'est pas que des jeunes, hein, je crois que ça va jusqu'à 45 ans, son public. C'est assez bluffant de le voir faire en temps réel, si j'ose dire. C'est une bête de télé. La dernière, à mon avis, faut remonter peut-être à des gens comme De Chavannes pour voir ça, qui avait révolutionné un peu la télé des années 80. Il a inventé quelque chose, Cyril. Il a inventé quelque chose. Il se permet tout. Avec une certaine prudence aussi. Et par exemple, excusez-moi d'être un peu long, on a reçu Jean-Michel Blanquer. À un moment donné, je dis, est-ce que Matignon vous intéresserait ?
On touche pas à mon poste, effectivement. Voilà.
Et c'est là que Cyril est malin, parce que il sait que son public ne sait pas forcément que Matignon, ça veut dire être Premier ministre. Donc tout de suite, il y a le sous-titre et lui, Matignon, c'est Premier ministre. Et c'est un grand professionnel parce qu'à chaque fois, il voit à qui il s'adresse. Non, c'est une belle machine humoristique et intellectuelle.
Damien, première réaction, question pour
notre invité. On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine et sur le figaro.fr. Vous pouvez poser toutes vos questions à Yann Moix. Alors, il y a déjà Clément qui a une question intéressante. Rico également, on la posera un petit peu tout à l'heure. Et on va prendre une question de Sylvain qui note que... alors lui, il est un peu taquin parce qu'il se souvient que dans Salut les Terriens, vous gagnez, je crois, 3000 euros par mois. C'était quelque chose... par émission, c'était Thierry Ardisson qui avait dit ça une fois. Et du coup, il aimerait savoir si Cyril Hanouna est aussi généreux.
Je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas encore dilé complètement mes contrats. En fait, je suis en train de vous mentir.
C'est le début de la saison ?
Non, mais j'arrive pas à mentir.
Vous n'avez pas de contrat de saison, c'est ça, mais vous êtes quand même.
Non, c'est faux, j'en ai un. Ouais. J'ai un agent qui s'en occupe. Ouais. Et je peux dire que j'ai beaucoup de chance d'être traité comme je suis traité. Je ne vais pas vous mentir. Alors, il y a le risque de faire du direct, etc. C'est un métier qui comporte des difficultés. La difficulté, c'est les polémiques, de se faire griller, de se faire taper dessus. Mais je ne vais pas non plus vous mentir, c'est très agréable à faire. et je ne vais pas faire de démagogie, mais enfin, aller à la télévision pendant 2-3 heures ouais. et avoir un salaire plus que décent, c'est quand même plus simple que de se lever le matin à 5 heures pour faire des travaux qui sont parfois extrêmement pénibles. Voilà. Donc je suis conscient du privilège que j'ai, mais en même temps, voilà, je pense être payé pour ce que je rapporte ou que je représente. Si vous voulez. Je crois que c'est un deal, un contrat gagnant-gagnant. S'il n'avait pas voulu accepter ces conditions, il m'aurait dit non. Ils sont pas, ce ne sont pas des gens à s'embarrasser de ce genre de...
De caprice, on va dire.
Je ne suis pas capricieux en plus. Ouais. Je fais pas de chantage, je propose quelque chose, ils me disent non, après on essaye de trouver un arrangement.
Est-ce qu'un écrivain comme vous, qui a été aussi réalisateur, hein, d'ailleurs, je le rappelle, là, c'était Podium, et qui est, on va dire, un intellectuel entre guillemets, comment on s'adapte justement au tempérament d'un Cyril Hanouna qui rebondit, qui rigole souvent, qui fait des phrases courtes, synthétiques.
Est-ce qu'il vous laisse le temps de vous exprimer?
Non.
C'est l'esprit. Non. C'est-à-dire que Laurent Ruquier, il arrivait qu'il nous coupe la parole parce qu'on faisait des tunnels. Là, si vous voulez, c'est pas qu'on. C'est
pas des, on a pas, même pas le temps de démarrer.
Ah non, mais même un aphorisme de Sioran serait coupé chez Cyril. un tweet, c'est, pour lui, un tweet, c'est l'équivalent de la Bible. En longueur. Cyril, c'est l'impatience. Il faut immédiatement faire mouche, envoyer la fléchette dans le mille. Sinon, si la phrase fait plus de... Votre question fait plus de 8 secondes, il commence à vous traiter par la dérision. Donc, c'est redoutable. Donc, il faut s'adapter à ça. Parfois, j'y arrive. Parfois, j'y arrive pas. Quand j'y arrive pas, je vois que je m'enlise. Parce qu'il y a son petit rictus qui commence. Et là, vous savez que vous êtes mort. Non, il faut s'adapter à tout.
Dans les chroniqueurs, il y a partagé, j'imagine, un certain nombre d'opinions, mais ce n'est pas toujours le cas. Ceux dont vous sentez le plus proche aujourd'hui dans la bande de Balance ton poste.
Alors, j'aime beaucoup Éric Nolot, que je considère vraiment comme un frère. C'est quelqu'un, humainement, que j'aime beaucoup pour mille raisons. Et il y a quelqu'un, figurez-vous, il y a deux personnes que j'aurais jugées aux antipodes de mes sensibilités politiques.
Que vous avez découvertes, du coup.
Oui, humainement. Raquel Garrido, qui est quelqu'un d'exceptionnel dans la vie. Et un grand coup de cœur, comme on dit aujourd'hui, c'est un peu... Je déteste cette expression,
ça illustre bien
les coups de gueule et les coups de cœur. Non, j'adore Rokhaya Diallo. Ouais. Humainement, c'est quelqu'un de passionnant. J'ai la chance de la connaître un petit peu dans la vie. Je peux être en désaccord ponctuellement avec telle ou telle de ses positions, qui sont peut-être parfois extrêmes, mais elle m'a beaucoup apporté intellectuellement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est bien d'avoir une confrontation de ce niveau parce que ça permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de raffiner sa pensée et de penser contre soi-même. Il y a des choses, j'en étais sûr, j'aurais mis même main au feu que j'avais raison. En discutant avec Rokhaya, je me suis dit, je crois que t'as tort. Et ça, c'est bien de penser contre soi-même. Encore faut-il avoir un interlocuteur qui vous le permette. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et oui, je dis ça sur l'antenne du Figaro.
On l'accepte. On l'accepte.
Non, mais moi, le Figaro, je veux dire, c'est le journal que je trouve le plus ouvert. Il y a une ouverture intellectuelle au Figaro que j'ai toujours, mais depuis mon adolescence à aujourd'hui, je n'ai jamais vu au Figaro de dogmatisme. Ouais. C'est ça que j'aime ici.
Eh bien, vous êtes un fidèle lecteur, donc.
Ah oui, je lis le Figaro depuis 1982, depuis que j'ai 14 ans. Donc, le premier Figaro que j'ai lu, c'était dans un bus en Irlande, le 14 août 1982.
C'est une précision.
Il était
quelle heure?
Vers 15h.
Allez, une question encore des internautes.
Oui, on va prendre une question de Christian sur Twitter qui aimerait savoir si vous allez participer à la future émission de Cyril Hanouna, l'émission autour de la présidentielle. On sait qu'il en prépare une, qu'il va en lancer une sur C8. Est-ce que vous ferez partie du dispositif?
Je n'ai pas encore été
contacté
pour ça. J'espère que oui, mais je force la main de personne. J'espère qu'il pensera à moi, mais peut-être pas. Peut-être qu'il a pensé à des chroniqueurs réguliers qui sont complètement extérieurs à BTP ou TPMP. Ouais. Et ça, je ne suis pas au courant. Je sais qu'elle va exister, mais on ne m'a pas contacté à ce sujet. J'adorerais la faire.
Elle n'est peut-être pas encore née, effectivement.
Mais j'adorerais ça. J'aime bien interviewer les hommes politiques. J'ai appris ça sur le tas, on n'est pas couché. Ouais. C'est toujours intéressant de leur faire sortir un peu des choses. Ils sont quand même très langue de bois, on va pas se
mentir. Oui, c'est très périlleux, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a une armée de communicants qui se trouve derrière eux. C'est assez difficile de faire sortir quelque chose.
Ils viennent toujours à 4-5. Donc, il y a 4 types qui sont là, en panique, en général, en panique.
Surtout dans On n'est pas couché, on sait qu'à l'époque, les échanges étaient très musclés quand même.
C'est-à-dire que les hommes politiques sont beaucoup moins panicards que les 3 qui sont en charge de leur communication. Ah non, mais eux, c'est des poisons, quoi. Eux, c'est vraiment parasitaire. Vous savez, c'est ça le problème des hommes politiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le temps de passer 5 minutes par jour avec eux-mêmes pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Il y a des parasites qui font bzzz toute la journée comme des mouches. Et ça, c'est un cancer. Les communicants, c'est des cancers pour les hommes politiques.
Cyril Hanouna et la politique, c'est un mariage vraiment réalisable, vous pensez?
Ou 21.
On voit déjà, il invite un certain nombre de politiques, en effet, dans des PMP, et certains observateurs s'offusquent en disant « Mais est-ce que c'est vraiment la place des politiques d'aller dans ce manège, entre guillemets ?»
Alors, parfois, je trouve qu'il pose... En fait, quand il essaye de jouer à l'intérieur politique, ça ne marche pas. Il fait deux questions, il se sent obligé d'être quelqu'un d'autre, et puis ensuite, on voit bien qu'il se débarrasse de ça, ouais. Et il appuie pile là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'en fait, il pose la question que chez soi, on se poserait. Et comme il est malin, il oublie toutes ses fiches, etc., et puis il y va. Carl Zéro faisait ça à un moment donné sur Canal+, où il tutoyait les hommes politiques, ça. Il essaye d'obtenir quelque chose qu'on n'obtiendrait pas forcément à 7h du matin sur France Inter. Si vous voulez, ce qui est bien avec les hommes politiques, c'est de les soumettre à plusieurs feux de nature différente. Et si on fait la moyenne géométrique de tous les entretiens qu'ils ont, peut-être qu'on peut savoir un peu mieux qui ils sont. C'est bien qu'ils soient soumis à différentes épreuves. Parfois des interviews, parfois des interrogatoires.
C'est vrai.
L'émission politique, justement, qu'ils préparent, c'est là où ça peut jouer, selon vous?
Moi, j'en suis sûr.
Sur le public des jeunes, notamment?
Mais moi, j'en suis sûr. Mais vraiment, vous savez, il y a une époque où, par exemple, au Cercle de minuit, etc., on prenait des émissions pour adultes et on faisait artificiellement venir des jeunes dans le public en sachant que l'émission était regardée par des vieux. Il y avait des jeunes dans le public de l'émission.
C'est dissonant, donc.
Oui, oui. Alors là, si vous voulez, finalement, c'est interactif. Il y a des jeunes dans le public et il y a des jeunes... Enfin, j'appelle jeunes jusqu'à 45 ans, hein, parce qu'on sait que le public danois, c'est 17-45, c'est pas 12 ans. Et donc, il y a une sorte d'osmose entre ceux qui regardent et ceux qui sont dans la salle. Et moi, je suis persuadé... Alors, on peut... Certains le regretteront, mais que c'est là que ça va se jouer. C'est là que ça va se jouer. Parce que d'abord, les hommes politiques veulent montrer qu'ils n'ont pas peur d'y aller. Donc, il y a une part de démagogie de leur part. Et finalement, Cyril est quand même plutôt bienveillant. D'abord, il a envie que les hommes politiques soient récurrents dans son émission. Donc, il ne risque rien en venant. Cyril veut les rassurer et non pas les inquiéter. Et c'était pareil avec Barma chez Laurent Ruquier. On voulait inquiéter personne parce qu'on sait que si ça se passe mal, les autres ne viendront pas. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant.
C'est bienveillant, donc. Ouais.
Cyril est tout sauf méchant. Il veut avoir de la crédibilité. Il veut être tout, Cyril. Il veut être pompier, flic, ouais. Tarzan, Zorro, Bruce Lee.
Lanceur de
voyou, peut-être.
Tout. Et flic. Flic et voyou. C'est Belmondo.
Belle conclusion. Une dernière question.
On va prendre une question de Maurice, justement, sur Éric Zemmour. Vous savez, le fameux Éric Zemmour qui défrait la chronique. La semaine dernière, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à CNews de décompter son temps de parole au nom du pluralisme politique, même s'il n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle. Est-ce que c'est juste ou injuste?
C'est scandaleux, c'est un scandale, c'est ignoble. Si vous voulez, il se trouve que, exceptionnellement, c'est la première fois que ça arrive, un journaliste, donc quelqu'un qui a un temps de parole, va peut-être se présenter à la candidature à l'Élysée. Bon. Donc, je ne vois pas, tant qu'il n'est pas candidat officiel, pourquoi on l'empêche d'exercer son métier.
Sur quel motif se bat-il?
Et si il est suffisamment malin pour ne pas sortir de l'ambiguïté, il a raison, la loi est avec lui. Si il pense que... pour rattraper son retard par rapport à des gens qui font la politique depuis 20 ans, il peut, de manière peut-être un petit peu déloyale, mais en tout cas tout à fait juridiquement légale, très bien, il est malin. Je trouve scandaleux qu'on lui supprime son émission. Et d'autant plus que, bon, outre que le fait que stratégiquement ça soit une erreur, je pense que, admettons qu'on veuille combattre intellectuellement Zemmour, c'est certainement pas en lui coupant le sifflet qu'on peut le faire. Ça s'appelle vraiment de la malhonnêteté. Sous prétexte qu'on a trouvé personne d'aussi... intellectuellement structuré que lui pour contrer ses idées, on va le faire taire. C'est lamentable. Et les vraies raisons, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est que les chaînes concurrentes ont été pleurées auprès du CSA parce qu'elles veulent récupérer des parts de marché parce que son émission cartonne. Donc tout ça, c'est vraiment pornographique, c'est ignoble. Et sur ce coup-là, il a tout mon soutien. On est dans un processus qui n'est pas du tout démocratique et qui est d'un cynisme infini.
Pour rebondir par rapport à votre réponse, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview de Laurent Ruquier et Léa Salamé face à Éric Zemmour sur France 2 dans On est en direct, c'était samedi dernier?
Mais moi j'ai adoré parce que en fait c'est deux personnalités, c'est deux mauvaises foi, c'est la créature de Ruquier qui a pris maintenant toute son ampleur, donc c'est le fils de la vengeance du retour, de la vengeance du fils de la vengeance du retour, et finalement c'était deux égaux l'un face à l'autre. Et puis, on n'attendait pas, je l'ai déjà dit ailleurs, que ce soit une interview du Monde ou de Politis. Ouais. La mauvaise foi, les coups bas, les crispations, ne nous mentons pas, c'est aujourd'hui, en 2021, pour ça qu'on regarde la télé.
Bien sûr.
Sinon, on lit les journaux. On peut le regretter, hein. Ouais. Mais moi, j'ai aimé cette interview pour ça.
On parle beaucoup de politique. Vous auriez été tenté, en tant que, d'abandonner l'écriture pour la politique?
Non.
Jamais.
Non, non. Mais je vais vous dire quelque chose d'immodeste. Je pense que j'aurais eu suffisamment de mauvaise foi pour être crédible. je préfère écrire. Les hommes politiques sont dans le discours, les écrivains sont dans la parole. Les hommes politiques attendent un résultat de ce qu'ils disent, les écrivains sont dans la gratuité. Et vous savez, qui peut nous dire aujourd'hui le nom du président, du ministre de l'Éducation nationale quand Voyage au bout de la nuit est sorti, vous voyez ce que je veux dire. Les hommes politiques tournent et les artistes restent, pas forcément très longtemps, mais en tout cas, j'aime cette constance et je trouve que je suis bien à ma place, j'ai trouvé ma place. C'est pas facile sur Terre, je suis bien où je suis.
Écrivain, chroniqueur, on l'a dit, est-ce que demain, de réincarner un programme, cette fois comme chef d'orchestre à la télévision, sur C8 ou ailleurs, est-ce que ça vous tenterait ?
Oui, j'avais une émission que j'adorais, qui s'appelait Chez moi, que c'est sur Paris 1ère.
Première,
oui. La direction d'M6 a fait sous elle, quand j'ai eu cette petite polémique, qu'il suffisait de faire une émission spéciale avec des chroniqueurs qui m'auraient reproché les choses que j'ai faites quand j'avais 19 ans et demi. Et puis ça serait très bien passé, on aurait cartonné en audience pour cette première, et puis on aurait repris les choses comme si de rien n'était. Mais la directrice des programmes de Paris 1ère était dans un état de panique indescriptible. C'est-à-dire que même ma grand-mère était plus calme qu'elle quand la polémique est arrivée. J'ai jamais vu quelqu'un dans un état comme ça. Mais elle avait peur pour elle, hein, pas pour moi. Donc ils se sont comportés comme des couards. Mais ce sont des gens, je pense, qui regrettent peut-être leur choix. Là, je crâne un peu. Hein. Non, j'aimais beaucoup l'affaire.
Vous pensez qu'ils vont vous rappeler, c'est ça que vous voulez dire ?
Ah non, moi, vous savez, je suis commande rigide. Non seulement je considère que ce qui m'arrive est bien, mais je considère qu'il ne pouvait rien m'arriver de mieux.
Donc, conclusion, on vous retrouvera peut-être un jour à la tête d'une autre émission.
Ah, j'adorerais faire ça, c'était très agréable à faire. Ça, pour le coup, c'était vraiment une émission intellectuelle, pour les intellectuels. Et je vais vous dire une chose, que des ratés orléanais de ma famille aient eu le pouvoir de m'empêcher de continuer cette émission, c'est quelque chose qui est absolument lamentable et pitoyable. Que des gens qui n'ont jamais ouvert un livre de leur vie empêche quelqu'un de leur propre famille de donner aux gens envie de lire, et que Paris 1ère et M6 tombent dans ce panneau, c'est pathétique. Bon, la vie est longue.
Fin de la polémique. Dernière question.
Allez, on va prendre une question de Rico, justement, qui aimerait savoir si un jour vous allez repasser derrière la caméra. Vous avez réalisé Podium avec grand succès.
Ah oui, oui, oui.
Est-ce que ça vous intéresserait?
Oui, la réponse est oui. Vraiment, même trois fois oui, sans livrer plus.
Et trois fois oui, concrètement, vous allez avoir des projets là dans les prochains mois?
Non, j'ai terminé trois scénarios et oui, j'ai plusieurs projets, mais qui sont vraiment très sérieux.
Au cinéma?
Oui. Un Jean-Claude Van Damme.
Oui.
Un film avec Benoît Poulvord et Yvan Attal.
Benoît Poulvord qui jouait déjà dans...
Voilà, et j'ai un film avec Gérard Depardieu qui est tourné, Les aventures de Gérard Depardieu en Corée du Nord. Mais comme il y a un procès par phrase à l'intérieur, le producteur attend encore un peu.
Les aventures de Gérard Depardieu
en Corée du
Nord.
Ah oui, j'ai emmené Gérard à Pyongyang. Ouais. Je peux vous dire que le film...
C'est vrai que vous y êtes allé, vous en avez...
Non, mais le film est fou, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas quel distributeur aura le courage de... Même une seule projection... au Chambon-Feugerolles, à la maison de la culture de Chambon-Feugerolles, ça peut mettre le feu en France. C'est-à-dire que c'est de la dynamite. C'est-à-dire que chaque phrase que prononce Gérard, c'est un procès, en fait. Donc, dans ce film, il y a à peu près 85 procès.
Potentiels.
Potentiels.
C'est le meilleur teasing du monde, la coup.
Non, mais je vous assure, je sais même pas... Je l'ai montré un jour à la fille d'un ami, elle a 22 ans, elle a tenu 10 minutes. Elle dit, c'est un humour trop genré.
Trop genré. D'accord. Bon. Effectivement, ça va être très long pour elle.
Non, c'est de la dynamite, je ne sais pas si c'est montrable. Mais le film est génial. Pas moi, Gérard. Ouais. Le film est fou, mais fou. J'ai jamais vu ça. Hein. En tant que spectateur, je suis sidéré de ce que j'ai sur mon disque dur. Non, mais c'est sidérant. Je vous enverrai le lien. Ah, je vous promettez que vous le montrez à personne, même pas à vos proches.
Croix de bois, croix de fer, si je mange, je vais en enfer.
C'est dit. Dernière question sur l'activité comme littéraire. Orléans, Reims, vous allez bientôt sur produire, je crois, c'est Verdun.
Verdun et Paris.
Paris. Il y a la filiation, pour ceux qui n'ont lu aucun de ces livres.
La filiation...
Entre les différents...
Ah ben, le premier, c'est mon enfance. Le deuxième, c'est mes 20 ans. Le troisième, c'est le service militaire. Et le quatrième, c'est les débuts à Paris. Et ensuite, la tétralogie se termine.
Il n'y a pas de suite encore.
Après le non, j'arrête à Paris.
Vous arrêtez à Paris.
Les débuts à Paris. Parce que la suite, en fait, on la connaît. C'est moins drôle. C'est la vie professionnelle. Ouais, ce qui est drôle, c'est avant.
Beaucoup la séquence archive, quand même. Hein. On parlait de Lina, mais on sent que...
Je suis quelqu'un qui vit toute la journée en 1975, en 1982. Je ne suis pas tellement... je suis l'actualité, je me passionne pour l'actualité internationale, etc. Mais il y a une partie de moi qui est bloquée, enfermée dans les années 70-80. Comme, vous savez, une mouche sous une cloche. Ou alors même, la fenêtre est ouverte, mais je bute quand même toujours sur la vitre, mais je crois que j'aime bien ça. J'aime bien qu'il y ait une partie de moi-même qui soit enfermée dans le passé. J'adore ça. Voilà. J'écoute de la musique en travaillant qui n'excède pas mes 14 ans. Mais j'étais précoce, donc j'écoutais déjà des choses que je réécouterais aujourd'hui avec plaisir. Je ne fais pas le malin, hein. Je vous dis qu'en fait, j'aime bien avoir 15-16 ans. C'est un âge que j'adore, donc j'essaye d'y passer le plus souvent de vacances. Je pars souvent en vacances dans l'âge de 15 ans, j'aime bien ça. Je pars en vacances en 83.
Ouais. Ça tombe bien, on reste dans votre intimité, hein, avec notre dernière rubrique qui s'appelle « En toute franchise ». Évidemment, vous devez répondre avec la plus grande sincérité possible à un certain nombre de questions plus personnelles. Première, quel est votre plus beau souvenir à la télévision ?
Quand j'ai mis ma kippa face à Manuel Valls, ouais. Parce qu'il y avait des agressions anti-juives répétées. Je n'avais pas prévu de le faire. C'est un ami qui, 2 minutes avant que j'arrive sur le plateau, il m'a dit « mets ta kippa ». Enfin, je dis ma kippa, une kippa qu'on m'avait offerte. Intérieurement, ça a bougé beaucoup de choses en moi. C'était un moment très fort.
À l'inverse, votre pire souvenir ?
Face à Michel Onfray, qui est un ami que je respecte infiniment, et Dieu sait pourquoi. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir-là. Pour faire le malin, pour essayer de briller à bas frais, pour essayer de... Je n'ai pas compris ce que j'ai fait. En fait
qu'est-ce qui s'est passé exactement ?
En fait, Michel était... on parlait des migrants, oui. Et on parlait d'une photo, d'un corps, d'un enfant, etc. Bon, on n'était pas d'accord sur l'utilisation de cette photo. Oui. C'était un désaccord presque philosophique. Et plutôt que de débattre intelligemment, j'ai suicidé le débat quasiment en l'insultant, en lui faisant des procès d'intention, alors que c'est quelqu'un que je connais depuis 1996, qui m'a toujours défendu, j'ai toujours aimé ses livres, et réciproquement, un jour il a eu la gentillesse de dire « si j'étais romancier, je serais Yann Moix », c'est quand même un compliment magnifique. Oui. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Alors, évidemment, je lui ai présenté des excuses publiques à peu près un an après, parce que je ne savais plus où me mettre, tellement j'avais honte de ce que j'avais fait. Et comme il est intelligent, il m'a pardonné, mais c'est un horrible moment.
C'est dit. Est-ce que vous avez une manie, un toc, un tic, avant d'entrer sur un plateau télé ?
Si j'étais Olivier de Kersauzon, je dirais je me gratte les couilles. Mais, mais je ne le
fais
pas.
Vous avez le droit, hein.
Non, mais je ne le fais pas. Donc, non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Vous savez pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Je tourne encore une seconde.
Ah, allez-y.
J'habite dans une rue de Paris où il s'est passé plein de choses historiquement. Ouais. Alors je dis, tu vois, au numéro 16, c'est là que Dalida et Delon se sont rencontrés. Là, il y a eu un assassinat en 1896 au numéro 24. Et il y a Olivier qui me dit, on est au numéro combien là ? 27. Eh bien, tu vois, en bas du numéro 27, à 15h33, le 26 janvier, Olivier de Kersauzon vient de se gratter les couilles.
Je pense que c'est un événement qui rentrera dans les livres d'histoire, très certainement.
J'adore Olivier de Kersauzon. Il a du génie. Hein. Ah oui. Il a du génie.
Est-ce que
un jour, on allait faire une émission de radio. Je lui dis, ça te plaît ce qu'on fait ? Il me répond, on me donnerait la moitié pour ne pas le faire, j'accepterais. Non, alors, c'est un génie.
Justement, en parlant de génie, est-ce que vous avez un mentor dans votre vie ?
Oui, mais il est mort.
Ah, bah, c'est pas grave, vous pouvez donner son identité.
Je dirais Charles Péguy.
Charles Péguy, justement, on en a parlé tout à l'heure en introduction.
Charles Péguy, je pense que c'est pour moi la plus grande intelligence... à laquelle j'ai été confronté comme lecteur.
Et si vous deviez faire renaître, revivre quelqu'un, une personne, ce serait qui ?
Sacha Guitry.
Sacha Guitry.
Et je ne pense pas qu'il aurait été très sympathique avec moi, je pense qu'il aurait eu autre chose à faire. Mais si je pouvais le voir, quoi, rentrer dans cette pièce, me taire, me mettre dans un coin, voir à quoi ressemblait une de ses journées, Sacha Guitry.
Si vous n'aviez pas été chroniqueur, écrivain, réalisateur...
Non, je suis écrivain quand même.
Oui, mais si vous ne l'aviez pas été...
Je serais mort. Je
me vous seriez suicidé. Mort, mais justement, vous auriez fait quel métier ? Vous
rien,
n'en auriez pas fait ?
Rien. Vous savez, quand je suis sorti de Sciences Po, ouais. Parfois j'ai l'impression que je passe pour un crâneur, mais en fait, tout ce que je vous dis est vrai. Je me suis dit, jamais je travaille en entreprise, ça sera SDF ou écrivain.
Alors, et heureusement que vous avez réussi.
Non, mais c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité. Je ne me suis pas laissé le choix. Je ne suis pas. Je dis ça souvent à des jeunes qui me disent comment il faut faire, comment vous avez fait. Ne pas se laisser le choix. Ne pas avoir de parachute.
Être au pied du mur.
Ne pas se laisser un plan B. Un jour, Christine Angot a dit que c'était un truc de plan B. Je pense que c'est que du plan A, moi. Il ne faut pas se... Non, voilà. Alors, j'ai eu la chance d'être hébergé au Figaro par François Gisbert, qui me faisait faire des piges, etc. Donc, mais j'ai toujours voulu être écrivain et j'aurais...
Bref. C'est une forme d'exercer son métier d'écrivain, d'être journaliste.
Ah, j'adore le journalisme. Regardez Péguy. À un moment donné, au début de ma carrière, je faisais le malin et donc je crachais sur les journalistes. C'était débile. Grâce aux journalistes, on peut faire son métier d'écrivain parce qu'il nous apporte une matière première extrêmement riche. Et puis, rien n'est plus agréable pour un écrivain de se transformer momentanément en journaliste. C'est un métier merveilleux.
Une dernière, avant de vous abandonner, entre guillemets, qu'est-ce qui vous déplaît le plus dans votre caractère ?
L'impulsivité. Si je pouvais guérir ça, ça m'a joué bien des tours.
Notamment face à Michel Onfray, on en parlait tout à l'heure.
Ouais, l'impulsivité. C'est, je démarre au quart de tour. Ça, c'est ce qu'il y a de pire. La colère, c'est réglé. 10 ans d'analyse, 10 ans de psychanalyse, et j'ai plus jamais piqué de crise de nerfs. C'est un vrai... Avant, j'étais très colérique. Non, mais l'impulsivité, c'est horrible. Ça fait faire vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bêtises. Et au moment où je... Parce que je suis injuste dans l'impulsivité, au moment où l'impulsivité arrive, en temps réel, je le regrette. Je suis déjà en train de préparer les excuses. Ah oui. Au moment où je suis injuste, je suis déjà en train de préparer mes excuses intellectuellement.
Non, c'est... Quel aveu ?
Non, vous m'avez demandé.
C'est
la séquence.
En toute franchise.
Alors que juste avant, c'était la
c'était séquence, la séquence en toute focurie.
Donc là, j'en profite.
Vous venez de dynamiter notre émission, là.
Non. Oui.
Yann Moix, merci beaucoup d'être venu dans le Bonus Télé. Vous restez encore un instant avec nous. Donc, je vous rappelle, ce soir, Balance ton poste, c'est en direct à 21h15 sur la chaîne C8.
Et là, on était en direct, là ?
On était en direct.
Ah oui, parce qu'il y a Rico.
Il y avait Clément aussi. Désolé, on n'a pas pu poser sa question.
Et demain, notre nouvel invité sera.
Demain, nous recevrons un danseur, figurez-vous, puisque nous allons parler de Danse avec les stars, c'est plutôt logique, sur TF1. Ça arrive là, dans quelques jours sur TF1, nous allons recevoir un nouveau juré de l'émission. Il s'agit de François Allu, qui sera avec nous demain sur ce plateau.
Merci Yann Moix encore et
merci
bonne journée.
Merci
Yann Moix.